Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Courrier adressé jeudi 5 novembre 2020 à Xavier Breton, Stéphane Trompille, Patrick Chaise, Sylvie Gouachavant, Hélène Maréchal, Florence Blatrix-Conta, Sylviane Chen, élue du département de l'Ain. La Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres ont lancé une action commune pour exiger la prise en compte des radios associatives dans le plan de relance. Acteurs engagés et unanimement salués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par les pouvoirs publics, les radios locales associatives ont démontré lors de cette crise leur adaptabilité et leur apport essentiel à l'information locale d'urgence et au lien social dans les quartiers et les campagnes auprès des familles et des personnes isolées. Et ce, dans des conditions budgétaires compliquées. Radio B, comme d'autres radios associatives, subit les effets économiques de la crise sanitaire. Par la présente, nous appelons votre attention et votre soutien quant au devenir des radios associatives et qu'elles ne soient pas les grandes oubliées du plan de relance. Avec 2 millions d'auditrices et d'auditeurs, le secteur de la radiodiffusion privée est constitué de 950 entreprises nationales et locales et de 5200 salariés, dont 680 très petites entreprises de l'économie sociale et solidaire et 2400 salariés, dont 300 journalistes. En réponse à l'impact économique immédiat de la crise sanitaire, des mesures d'urgence d'une ampleur exceptionnelle ont été déployées en 2020 en faveur des acteurs de la presse, des médias et des industries culturelles pour un montant total de près de 520 millions d'euros. Le législateur a voulu, dans ce cadre, qu'une aide exceptionnelle de 30 millions d'euros soit déployée pour soutenir la diffusion des radios et des TV locales. Mais les radios locales associatives ont été exclues du dispositif spécial de solidarité au motif de l'existence du fonds de soutien à expression radiophonique. Pour éviter un impact délétère sur les emplois, il convient de soutenir spécifiquement les radios associatives. Les organisations professionnelles du secteur demandent donc que soit abondé le fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le cadre de l'enveloppe votée des 30 millions du projet de loi de finances rectificative 2020 pour sauver la filière en fléchant 3,5 millions d'euros vers les radios de communication sociale de proximité. Nous vous remercions par avance de votre bienveillante attention portée au secteur des radios associatives, acteurs de proximité et du quotidien. Toute l'équipe de Radio B se tient à votre disposition pour vous présenter notre situation et nos actions. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre haute considération. Au terminus des prétentieux, émission spéciale ce soir, espère que nos élus ne servent pas uniquement à répondre aux questions des journalistes de Radio B. Si vous vous demandez à quoi sert un élu, celui 90.0 de Radio B, on vous tiendra au courant de la réponse au courrier dès qu'ils l'auront lu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 pour une émission haute en couleurs. Des chroniques, de l'humeur, des émotions, il y en aura pour tous les goûts. C'est le moment de couper avec ce monde de fric et décidément, mais ce n'est plus une surprise, des cons, je ne vous en dis pas plus. Et comme le dit si bien Tonio...
Allez, go!
Come on, top, we're done.
tiens, cette chanson me dit quelque chose. C'est ce que vous êtes dit en écoutant Gimme Some Lovin'. Il faut dire que, toute génération confondue, ce morceau de 1966, ô combien culte, signé ce soir The Spencer Davis Group, nous parle forcément. Il y a celles et ceux qui ont vécu les années 60 musicalement parlant et ont donc découvert à la radio ce groupe britannique fondé en 1963 par Spencer Davis, Peter York, Steve Winwood et son frère Muff. Ils ont dû subir la reprise en français Donne-moi ton amour, signé Antonio, pas notre Johnny National pour une fois, mais par Sylvie Vartan, ce qui revient au même, vous me direz. Les plus cinéphiles d'entre nous se souviendront de ce film de 1980, The Blues Brothers, et cette reprise ô combien énergique et dansante Gimme Some Lovin', avec le regretté John Belushi au chant. Les fans de hard rock des années 80, dont je fis partie, auront découvert la reprise de Great White ainsi que celle de Raven et Thunder. Sans oublier celle de Ike and Tina Turner, Olivia Newton-John, Queen en public sur l'album de 1986 Live at Wembley, lundi dernier concert de Freddie Mercury, et malheureusement pour nous, et vous me voyez venir, en 1994, par l'inévitable, décidément, Jean-Philippe Smet, lors d'un concert à la Cigale. Mais il est temps de réparer cette erreur et de rendre à César ce qui est à César. Je devrais plutôt dire de rendre à Steve Winwood ce qui est à The Spencer Davis Group, puisque c'est ce dernier qui sort en octobre 1966 le morceau culte de ce soir, Gimme Some Lovin', et cet orgue Hammond B3 joué par Steve Winwood. Le départ des frères Winwood fut fatal au Spencer Davis Group. Après un passage aux États-Unis, le leader reprend les manettes du groupe et enregistre en 1973 un dernier album studio. Mais il n'avait jamais quitté la scène depuis, enregistrant quelques rares albums en public. Ce n'est plus le cas depuis le 19 octobre 2020, date de la disparition de Spencer Davis, le chanteur, guitariste et harmoniciste, à l'âge de 81 ans. Il nous reste ces morceaux cultissimes que sont Keep On Running, Georgia On My Mind, Nobody Knows You When You're Down and Out, un classique du blues, ou I'm a Man. Sans oublier Gimme Some Lovin', une reprise dont on entendra parler durant cette heure, décidément pas comme les autres.
Ce bed musical signé Lloyd Cole nous indique que nous allons parler musique.
Christian, il la joue à la guitare, cette intro, là ?
J'y arrive pas, c'est trop.
C'est pas facile, hein. J'ai essayé un petit peu, il y a une vingtaine d'années, j'ai abandonné.
Ça fait partie des choses simples qui ont l'air de couler autour, c'est qu'ils sont injouables.
Ouais.
D'ailleurs, après ce bed, normalement, tu donnes l'heure, et puis moi, je redis, vous écoutez...
Mais oui, mais voilà, ce soir, ce n'est
là,
pas...
Là, il était prêt, Tony, il était prêt.
Ah putain, je m'étais préparé pour ça.
Pas de gros mots, on n'est pas à VFM TV, attention.
Oh purée, je m'étais préparé
voilà,
pour ça,
c'est
pardon.
Mieux, c'est mieux. Nous sommes toujours en 2000, hein, ce sont les débuts d'émission et le premier album d'un des désormais dinosaures du rock. Si Radiohead les influençait à leur début, oui, on ne peut pas en dire autant aujourd'hui, malheureusement. Ils ont fini par perdre leur parachute et se sont éclatés comme de vulgaires merdes du
il
top 50.
Spoil.
Comment Coldplay a-t-il pu nous faire cela, Frédéric?
Je suis pas le seul, super.
Mais spoil aussi, Michel. Non, mais t'as raison en plus, hein. Je suis tout à fait d'accord. Bon, ça aurait été trop facile de citer Radiohead pour le coup avec Kid A. Peut-être que d'ailleurs certains animateurs l'ont choisi, non pas du tout, mais j'aurais pu citer cet album-là. Mais je voulais pas aller sur cette piste trop facile. Et surtout, c'était pour une forme de réhabilitation d'un album qui a été oublié et noyé dans une discographie évidemment trop mielleuse. Et je suis tout à fait d'accord, ce qu'ils ont fait ces dernières années est vraiment pas du tout acceptable. Surtout à comparer de leur premier album, parce que c'est l'album d'un nouveau groupe qui sort en juillet 2000 en France. Quoi de plus chouette pour fêter finalement les 20 ans du Terminus. Et donc, cet album souffre d'avoir été composé par un groupe qui a mauvaise réputation. Cet album regorge de pépites méconnues, Sparks, Spies et Don't Panic. Et puis, parce que Michel, il faut peut-être écouter un petit extrait, on va entendre derrière un des beaux morceaux de cet album Parachute de Coldplay, sorti en 2000.
side above. Confidence in you is confidence in me. It's confidence in a high speed.
Tenions à présenter toutes nos excuses. L'ARS vient de nous téléphoner. Il semblerait qu'à l'écoute de notre émission et de la programmation musicale, il y a eu plus de cas de suicide que de mort à cause du Covid sur la région de Bourg-en-Bresse. Nous présentons nos excuses à toutes les familles des disparus.
Une émission très festive pour les 20 ans, Michel.
En même temps, ça s'appelle le Terminus.
Attends, mais c'est pas fini.
Non, ce n'est pas fini. On va essayer d'égayer un peu votre quotidien. Avec le morceau qui va suivre, on va faire des heureux puisqu'il s'agit d'AC/DC qui fait son grand retour après 6 ans d'absence et le regrette mais pas regretté Rock or Bust avec la sortie le 13 novembre 2020 de son 17e album studio Power Up. Pour celles et ceux qui avaient des cheveux longs et des jeans cloutés dans les années 80 et qui aujourd'hui ont décidément bien changé et pas uniquement de bord politique, un petit rappel des aventures d'AC/DC au 21e siècle. Côté formation, Malcolm Young, le guitariste rythmique des débuts, nous a quitté le 18 novembre 2017 à l'âge de 64 ans et a été remplacé par Stevie Young, son neveu. Phil Rudd, le batteur des débuts, ou presque, revenu en 1994 malgré quelques déboires judiciaires, est depuis 2016 le batteur officiel d'AC/DC remplaçant Chris Slade. Cliff Williams, le bassiste du combo depuis 1977, avait déclaré prendre sa retraite 40 ans plus tard, mais a repris la 4 cordes depuis au sein de la formation. Brian Johnson a dû arrêter de brailler en 2016, sinon il risquait de devenir sourd, et avait été remplacé au micro par le chanteur des Guns N' Roses, Axl Rose. Malheureusement, il n'y eut pas de suite et Brian Johnson est de retour au chant. Je garde le meilleur pour la fin. Angus Young est toujours là pour le plus grand bonheur des fans de guitare et de rock, toutes tendances confondues. Tout ce beau monde est reparti en studio pour enregistrer Power Up, le 17e album d'AC/DC qui sort demain, le vendredi 13 novembre 2020. Rien de neuf à l'horizon, c'est moins pire que le dernier et l'avant-dernier, c'est aussi blues que rock, à l'image de Shot in the Dark, AC/DC.
Yeah.
AC/DC Shot in the Dark, extrait de leur nouvelle galette Power Up, qui sort demain, le vendredi 13 novembre 2020. Les années 70 sont très loin, on ne peut pas être et avoir été, alors un peu d'indulgence pour l'une des légendes du rock encore vivante. Les verra-t-on sur scène en France, avec ou sans Brian Johnson? C'est tout le mal qu'on souhaite aux fans inconditionnels d'ACDC, je pense aux deux François qui se reconnaîtront. Après un groupe culte encore vivant, une autre référence du rock depuis les années 90 et qui, à défaut de remplir les stades, remplit bien d'autres salles comme les arènes de Nîmes, Bercy ou les Nuits de Fourvière, c'est Radiohead. Un de nos fidèles auditeurs, Alexandre, avait envie de vous parler d'un des plus grands hits planétaires, Dixit, notre ami Wikipédia. Alexandre, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour aux auditrices 7 heures. Cette semaine, je voulais vous parler d'un tube d'un groupe britannique que beaucoup ont découvert avec la bande originale du film Cyclo. Creep de Radiohead. Cette chanson ayant été passée et repassée par les radios, elle est devenue même persona non grata pour Thom Yorke, le leader du groupe. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un titre issu de leur troisième album, OK Computer, en l'occurrence Karma Police. Karma Police est donc le second single de l'album, qui nous parle d'une sorte de police de la pensée, en référence à la dystopie 1984. Karma Police, arrêtez cet homme, il parle en maths, il bourdonne comme un frigo. Et un peu plus loin, police du karma, arrêtez cette fille, sa coiffure à la Hitler me rend malade, et nous avons saccagé sa fête. Karma, police, espérons quand même que ces dystopies que sont Karma Police et 1984 en restent vraiment. Mais avec les temps qui courent, la réalité est en train de rattraper ces fictions. On écoute Radiohead avec Karma Police. Radiohead Karma Police.
Merci Alexandre pour l'évocation d'un des plus beaux morceaux que le rock nous ait permis de découvrir, Karma Police de Radiohead. Un morceau culte, assurément. Et qui dit morceau culte ce soir, dit Gimme Some Lovin'. Tout à l'heure, avec la Dolorane du Doc, nous étions revenus en 1966 avec The Spencer Davis Group. Le temps de recharger en plutonium le convecteur temporel, et avant que des terroristes libyens nous en empêchent, à moins que cela ne soit la police nationale, et oui, hein, 88 miles à l'heure, c'est interdit en France, je programme la machine à voyager dans le temps. 20 juin 1980, direction les États-Unis et un bon vieux cinéma de quartier. Je m'installe sur un vieux fauteuil, un paquet de cornflakes à la main et c'est parti pour The Blues Brothers. En 1976, John Belushi, alias le chanteur Jake Blues, et Dan Aykroyd, alias le joueur d'harmonica Elwood Blues, tous les deux membres de l'équipe originale de l'émission de télévision Saturday Night Live de la chaîne NBC, avaient créé les Frères Blues et leurs identités alternatives au début de 1976. Pour chauffer le public. L'aspect humoristique repose en partie sur l'image de deux hommes habillés de costumes noirs, ayant l'air de tueurs à gages mafieux qui soudain explosent en chansons et danses énergiques. Le film The Blues Brothers, réalisé par John Landis, sort sur les écrans de cinéma avec les apparitions d'Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, John Lee Hooker, Steven Spielberg ou Joe Walsh. Une BO cultissime avec Gimme Some Lovin', le morceau décidément culte de ce soir. Gimme Some Lovin', The Blues Brothers, un morceau culte pour un film qu'il est tout autant. Le 5 mars 1982, John Belushi, devenu cocaïnomane, meurt à Hollywood d'une overdose de Speedball, un mélange d'héroïne et de cocaïne. Quant au Canadien Dan Aykroyd, découvert pour beaucoup d'entre vous avec le film SOS Fantôme, rappelez-vous le docteur Ray Stantz, à qui l'on doit l'évocation du fameux Bibadum Shamalo, il sera de retour en 2021 avec SOS Fantôme, l'héritage. Et les Blues Brothers dans tout ça ? Le groupe existe toujours sans Dan Aykroyd et continue de tourner à travers le monde. Il nous reste ce film et cette BO culte que je vous encourage à écouter et à regarder, mais je suis sûr que c'est déjà fait. C'est le cas de Patrick, ancien membre de l'équipe du Terminus des Prétentieux et fidèle auditeur de l'émission. Il n'a pu résister au confinement pour nous proposer une chronique dont il a seul le secret. Confinement, acte 2, première partie.
Quelle joie de retrouver l'école sans ses slips sur le museau, pardon ces masques fabriqués en Chine par Dim au chlorure d'argent. Masques généreusement fournis en grand nombre, c'est-à-dire 5 exemplaires, par notre cher ministre de l'ordre de retour à l'école. Ministre qui forme avec le pétillant Jean Castex un excellent duo qui n'est pas sans nous rappeler le commissaire Juve et Fantomas, duo qui fleure bon les années pas forcément face du cinéma français. Alors, quelle reprise dans le secondaire ? Nous passerons rapidement sur toutes les directives nous demandant d'évaluer les élèves dès la rentrée afin de les préparer au poste de la grande distribution quand ils seront en première ligne pour le Covid-31 en 2031. À propos de numération spéciale dédicace à l'omniprésent Michel Onfray, ami du sinistre Zemmour qui, à force de donner son avis sur tout et surtout son avis, a mangé son Front Populaire. Front Populaire dont on préférera toujours l'original à sa copie droitière et qui a mangé également son chapeau en avançant que le Covid actuel était le 19e et sans doute pas le dernier.
Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne.
C'était juste l'année 2019.
C'était 2019, c'était l'année
c'est ça.
Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres.
Mais revenons à l'évaluation. Une collègue et néanmoins amie, professeur de latin, espèce qui disparaîtra bien avant le dernier ours blanc, amie qui finança ses longues études grâce à une chaîne qui portait le nom d'un éléphant ressuscité par le climato-sceptique Claude Allègre, ministre que nous apprîmes très vite à ne pas regretter, cette collègue donc verse une larme nostalgique quand elle remplit ses grilles de compétences de ses élèves en pensant qu'elle était déjà évaluée de la sorte il y a 30 ans à la caisse de son job d'étudiante.
Quand on travaille dans les réseaux d'éducation prioritaire, on ne peut pas être évalué comme un enseignant qui travaille à Henri IV ou dans un autre établissement, on fait pas le même métier.
La compétence, c'est sans doute ce qu'on appelle la privatisation rampante des services publics en langage hospitalier. Cela se dit fermeture de lit dans l'éducation nationale, contractualisation, évaluation, compétence et parcours curriculaire. À quoi servent les évaluations dans l'éducation nationale ? En règle générale, pas à grand chose, à part poser des questions sur le travail des enseignants de CM2 aux élèves de 3e ou de 6e et de 3e ou de 6e aux élèves de seconde. Un peu de flicage au passage, cela ne peut pas faire de mal quand on leur demande par exemple si leur enseignant du premier confinement a bien joué le jeu de l'école à distance.
Bah écoutez, j'ai honte, mais c'est vrai que je comprends rien.
La fabrique du crétin numérique est en marche et la prime de 150 € promise afin de nous équiper d'appareils à monter en kit est sans doute là pour nous remonter le moral et nous faire oublier que le point d'indice des enseignants dont on a loué le mérite 3 jours depuis que l'un des leurs a été décapité par un islamiste décérébré n'a pas évolué depuis 2010.
Radio B ? Les bonnes ondes.
Lundi 2 novembre fut donc une rentrée bien particulière entre les consignes contradictoires et souvent confuses de notre hiérarchie, ajoutées aux injonctions, aux fiches et autres dossiers sur la laïcité et les valeurs de la République. Outil pédagogique censé nous aider à aborder entre une minute de silence et un texte de Jean Jaurès caviardé par les services du ministre, ces fameuses valeurs chères à Patrick Balkany et Nicolas Sarkozy, entre autres.
La République, mes chers amis, c'est notre combat, c'est notre engagement, c'est le fondement de notre famille politique, c'est le creuset de notre rassemblement.
J'en profite pour m'adresser à messieurs et mesdames les éditocrates, politiques de droite et d'extrême droite, intellectuels, médiatiques et autres ministres. Certains, il y a quelques années, participaient de l'intérieur à la manif pour tous et rédigeaient des tweets indigents pour exprimer leur opposition au mariage pour tous. D'autres assuraient, n'est-ce pas monsieur le ministre, leur soutien à l'école privée de confession catholique, sanctionnant des collègues exerçant leur droit d'expression contre certaines de ces réformes, ou alors embauchent même des collaborateurs membres de l'IFRAP, un think tank bien connu pour sa haine des services publics. Je prierai donc tous ces braves gens de garder leur sollicitude, car nous n'avons pas oublié que vous étiez les premiers à gloser sur le pseudo-absentéisme des profs durant le confinement, et que la chasse en enseignants et de leurs prétendus privilèges est devenue un sport national depuis bien longtemps dans les médias dominants et chez les toutologues du pire acabit.
Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et il faut mettre fin à ça.
Cette institutionnalisation de l'absence, ça me déplaît fondamentalement.
Notre collègue Samuel Paty mérite mieux que vos insanités sur l'islamo-gauchiste qui ne sont pas sans nous rappeler le concept de judéo-bolchevisme des années 30. Alors merci de nous foutre la paix. La journée du 2 novembre fut rude et émouvante, mais les écoles, collèges et lycées ont été le lieu de beaux échanges, de belles rencontres, et pour quelques élèves qui manifestent une hostilité aux valeurs de la République, il y en a des milliers qui nous apportent de belles satisfactions et ont fait preuve d'une grande dignité lors des hommages rendus à notre cher collègue. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre sur les bancs de l'école pour étudier des caricatures en tant que contractuels sous-payés et nous pourrons ensuite en rediscuter. Vous qui êtes si prompt à nous inciter à défendre les valeurs de la République dans un pays où 9 millions de pauvres, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes et les coups de canif aux libertés fondamentales nous rappellent chaque jour que la devise a du plomb dans l'aile.
Ça veut dire quoi ? Liberté, égalité, fraternité.
Sur le plan sanitaire, nous allons nous taire par charité laïque, afin d'éviter de sombrer dans la vulgarité ou un Gilles de la Tourette de mauvais aloi.
Attends, toi aussi, non, bon, t'as pas m'emmerdé, pas me casser les couilles, non.
Oui, excusez-moi si je prends la défense de Laurent.
Mais non, mais je me branle que tu prennes la défense de Laurent.
Je sais que tu te branles de tout.
Moi,
je sais que tu te branles de tout.
Dans les lycées, c'est la fête à Neuneu. Des classes peu aérées qui accueillent 30 à 35 élèves, des couloirs et des cantines où les distanciations sociales sont aussi faciles à maintenir qu'un neurone dans le cerveau d'un animateur de CNews. Depuis cette semaine, le courageux sinistre de l'éducation nationale a donné une consigne simple, faites comme vous voulez, dans la mesure du possible. Ceci dit, cela résume assez bien la rentrée des profs qui ont compris depuis bien longtemps qu'il fallait qu'ils se débrouillent face à toutes les situations problématiques auxquelles ils doivent faire face, comme d'ailleurs tous les fonctionnaires du service public conspués et moqués si souvent, mais que les braves gens sont bien contents de trouver pour s'occuper de leurs gosses gavés d'écran et de leurs vieux parents touchés par la Covid. Bien le bonjour chez vous.
La cloche vient de sonner au collège Edgar Poe. Je termine mon café, c'est l'heure de se mettre au boulot. Coincé dans un couloir avec des ados hystériques, je sens qu'en classe, il va falloir que je passe mon temps à faire le flic. Parce que mon taf, c'est de lire Rimbaud, c'est de faire découvrir Mallarmé, c'est de faire aimer Victor Hugo à des fans de Christophe Mahé, c'est de leur réciter du Baudelaire qu'ils aiment trop, pensent aux gros bolos. Faudrait que je leur fasse kiffer leur mère juste en leur lisant l'Albatros. Je suis devenu prof, bordel, et quand je fais cours, tout le monde ricane. Je suis devenu prof, mon job c'est de lire Corneille à des jeunes boutonneux qui rêvent d'avoir la carrière de Zidane. Je suis devenu prof, c'est quand même pas de bol, parce que je l'avais cette putain de vocation. J'ai dû la perdre sur les bancs de notre école. Qu'a fait de moi un professeur qui ne pense plus qu'aux récréations? Après chaque heure de cours, je vais faire un tour en salle des profs. Et c'est toujours le même discours, le même scénario catastrophe. On se dit que les élèves, c'est plus ça. Ça fait 30 ans que le niveau baisse. Sans doute que c'est peut-être grâce à ça qu'on a décroché notre CAPES. Et puis moi, je viens de l'IUFM. Mon job, c'est de mettre en pratique ce qu'exigent les garants du système qui se branlent dans le bouquin didactique. Seulement toutes les conneries qu'ils sèment pour qu'elles fleurissent dans nos cerveaux. Elles fonctionnent à Paris 16e, mais pas au collège Edgar Poe. Et moi, c'est là que je suis prof, bordel! Et quand je fais cours, tout le monde chahute. Je suis ce prof dont tout le monde se rappelle, parce qu'une fois en une heure de cours, il a dit 400 fois le mot chute. Arrêtez de rire, ou je vous fous tous en colle. Tant pis pour vous, tant pis pour ma vocation. Allons nous perdre sur les bancs de notre école, qu'a dû oublier de faire ses devoirs en matière d'éducation. Tous les disant la grande angoisse de l'inspecteur d'académie, qu'a le sourire d'un jour de poisse et la chaleur d'un jour de pluie. Surdiplômé en Alzheimer, plus il nous sac, plus il oublie qu'avant de devenir inspecteur, il était professeur aussi. Et enfin les parents d'élèves persuadés comme tout le monde en France qu'un prof quand il est pas en grève, il est malade ou en vacances. Du coup dans certaines discussions, je serais CRS, ce serait moins pire. Quand on me demande ma profession, je fais et j'ose pas dire que je suis devenu prof. Bah ouais, je suis devenu prof. Bordel.
Merde, je suis prof, Gauvrache. On retrouve Patrick la semaine prochaine pour la suite de ses aventures, prof d'histoire géo et les autres, ne pas s'abstenir. Un cours d'histoire que François Morel lui a ôté de la bouche, et c'est tout à son honneur, puisque le label Pias a eu la bonne idée de sortir le 6 novembre 2020 un album un peu particulier intitulé Jour de gloire. Une œuvre positive et fédératrice autour de laquelle tous les Français, quel que soit leur parcours et leurs origines, peuvent se reconnaître et se retrouver. Ce projet est d'actualité plus que jamais. Sébastien Boudria est compositeur et professeur de musique au conservatoire et amoureux d'histoire. Il y a 5 ans, il se met en tête de compiler une vingtaine de discours ou de textes de 1789 à nos jours afin de mettre en lumière nos valeurs républicaines. Une fois ces textes choisis, il se met en quête d'artistes pour les lire et les interpréter, puis compose des musiques originales pour soutenir ses lectures. En totale indépendance, il va donc s'adresser aux célébrités françaises du spectacle en les attendant à l'issue de leur représentation devant les salles de théâtre ou de concert. Son projet intéresse et plaît, et c'est ainsi qu'à force d'acharnement, ses textes sont aujourd'hui lus par 19 artistes dont Oxmo Puccino, Abdel Malik, Louis Chédid, Michel Bouquet, Denis Podalydès ou François Morel. Ce projet fascine car il nous parle à tous, il intrigue avec cette perspective de l'histoire au travers du prisme de l'actualité et surtout, il est incarné par un citoyen lambda sans revendication partisane aucune. À cela s'ajoute une temporalité précieuse. 2020 est une année aux multiples anniversaires de la République française, les 80 ans de l'appel du 18 juin, les 150 ans de la programmation de la 3ème République par Léon Gambetta. Sans oublier les 75 ans, le 19 octobre 2020, de l'institution par ordonnance du général de Gaulle et grâce à Ambroise Croizat de la Sécurité sociale. Sans cette dernière, qui assurerait des ressources dans un certain espace financier prévu à cet effet, ainsi que l'accès aux soins essentiels à certains citoyens ayant droit hors catastrophe, guerre ou calamité, qui auraient accès à une couverture de santé de par leur régime lié au statut ou leur fonction d'État et leur pauvreté. De la bouche de Sophie Marceau, Jane Birkin, Muriel Robin ou Karine Viard, cela ferait mauvais genre. De celle de François Morel, le message prend tout son sens. L'ordonnance du 4 octobre 1945 de la Sécurité sociale. Jour de gloire.
Pays du monde, dans l'élan de fraternité et de rapprochement des classes qui marquent la fin de la guerre, s'efforcent d'instituer au profit des travailleurs et même parfois de l'ensemble de la population un système de sécurité sociale. La France doit-elle aussi élaborer un tel système ? La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain. La réalisation d'un tel but est subordonnée à un ensemble de mesures qui engagent toute la politique économique et sociale du pays. Mais il demeure des circonstances dans lesquelles un travailleur se trouve privé de ses moyens d'existence, ou tout au moins dans lesquelles ses ressources sont insuffisantes pour pourvoir aux besoins de sa famille. Il en va ainsi d'une part lorsque le travailleur se trouve obligé d'interrompre son activité par suite notamment de maladie, de maternité, de vieillesse ou d'accident, d'autre part lorsqu'il supporte des charges de famille particulières. La sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire. Le but final à atteindre et la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. Un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants.
La sécurité sociale et son ordonnance de 1945, lue par François Morel, et que l'on retrouve avec 23 autres textes et 19 artistes sur un album intitulé « Jour de gloire » et sorti par le label Pias le 6 novembre 2020. 80 ans de l'appel du 18 juin, 150 ans de la programmation de la Troisième République par Léon Gambetta, ça méritait bien un hommage, en musique, mais pas seulement. Il ne reste plus au gouvernement que de confirmer que nous sommes bien dans une république et que la démocratie ne s'arrête pas à un simple masque chirurgical. Les artistes et les salles de spectacle vivants attendent eux aussi qu'on leur dise merci, et pas uniquement à la télévision, où il faut bien le dire, on dit tout et surtout n'importe quoi. Et 2020 est l'année de tous les records, celui de la connerie organisée, que ce soit à propos du coronavirus, du soi-disant terrorisme et du triptyque liberté, égalité, fraternité, qui n'est plus une réalité depuis trop longtemps. Liberté de ton et d'idées bafouées, puisque ce sont toujours les mêmes abrutis que l'on entend à longueur de journée et qui n'osent se taire, même après plusieurs rappels à l'ordre de la justice de la République. Égalité de traitement des idées inexistantes, puisque le libéralisme et le populisme d'extrême droite a envahi les studios de radio et de télévision à grands coups de chroniqueurs pro-gouvernementaux et anti-gilets jaunes et fonctionnaires. Fraternité rayée de la carte lorsqu'il s'agit de parler de son voisin, surtout s'il est étranger et s'il ne porte pas le masque comme le règlement de Vichy l'y oblige. Et tout ça par le prisme de la lucarne à blaireau chère à Éric Toulis. Son vrai nom, c'est Loutis, et c'est d'origine maghrébine. Ne le répétez pas à Zemmour, il est capable de se prendre un xème procès pour provocation à la haine raciale. Cette télévision que condamnait Coluche, cela ne date malheureusement pas d'hier, puisque nous étions en 1977. À la question « Pourquoi les gens sont devenus cons ?», voilà la réponse. Et puis, il y a la télévision. Coluche.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens ils sont devenus cons. Eh ben, c'est parce que les abrutis, la télé, les journaux, la publicité... Alors, bon... Alors, la publicité... Alors, t'as la lessive qui lave plus blanc que la lessive qui lavait déjà plus blanc. La même marque, hein. Alors, moi, j'ose plus changer de lessive. J'ai peur que les vêtements deviennent transparents. Enfin, des mêmes... Ça peut rien... Non, mais il y avait des trucs pratiques quand il n'y avait pas la pub. Par exemple, à 5h, on avait l'odeur, on savait qu'il était 5h. Maintenant, on se met des rillettes, on sait plus... On sait plus l'heure, hein, on est emmerdé. Alors, t'as les journaux, n'importe lequel, c'est... Le Concorde n'a pas pu se poser. Bon, bah, qu'il reste en l'air. On en a à foutre, nous, ils ont qu'à le ravitailler en vol. Et puis alors, t'as la télévision. Ah, mais qui rentre du boulot, c'est les informations le soir à 8h, clac. T'as des mecs qui arrivent là avec des tronches de premier de la classe, comme c'est pas permis. Bonjour Brushing, enchanté, moi c'est Brushing. Bon, et alors les mecs, ils te disent les informations. Parce qu'ils se disent, on va leur dire les informations, ce qui s'est passé un petit peu pour qu'ils soient au courant. Alors voilà ce qu'ils disent. Les gens disent que je dis que des conneries, alors là j'ai noté, maintenant je vais dire les leurs. Alors voilà, information hein, à la télé, hein. 8h, hein. Tronche de premier de la classe, rillette sous les bras. Hein. Bon, le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Bon, alors ça c'est nous qui payons, on s'en tamponne déjà, bon. Par le président de la République qui a descendu 2 marches pour l'accueillir. Faut vraiment rien avoir à foutre pour compter les marches. Hein. Alors attends, parce que dans la diplomatie c'est important, hein. Si t'es pas très copain, t'envoies le Premier ministre. Si t'es un peu copain, t'y vas, tu restes sur le perron. Si t'es vraiment sympa, tu descends de marche. Bon. Alors c'est ça. En fait, ça se compte comme ça. Hein. Descendu 2 marches pour l'accueillir en signe de détente, d'ailleurs. C'est écrit. 2 marches, c'est détente. Hein. La poignée de main était longue et chaleureuse. Ça veut pas dire grand-chose, mais en fait, il faut quand même savoir que les poignées de main, c'est au mètre de pellicule. Hein. Alors, quand c'est long, ça veut dire que il voulait bien que tout le monde le photographie, le temps, parce que les mecs sont là, merde, je le vois pas, qui c'est. Ah, ils sont là, ça y est, t'y es, connard. Bon, alors, salut. On rentre, parce que des fois, ils vendent, hein, ça les intéresse pas d'être dehors. Alors, attention, voici l'information par elle-même. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Donc là, déjà, c'est clair, le mec, il ne sait rien. Ils ont pas voulu. Il a dit, non, ils vont pas voulu. Bon. Mais, On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça... Les milieux autorisés, c'est un truc, vous y êtes pas, vous. Vous êtes même pas au bord, vous êtes pas là du tout. Bon. Le milieu autorisé, c'est un truc, c'est un endroit autorisé où il y a plein de mecs qui viennent pour s'autoriser des trucs, mais il y a que le milieu qui compte. Et là-dedans, il y a une poignée de connards qui tournent en rond en s'autorisant des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas, je vais peut-être m'autoriser un truc, mais... C'est vachement gonflé, j'hésite. Bon. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret. Alors, vous savez ce que c'est qu'un accord secret? C'est un accord dont qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est interdit, donc pas dans l'information non plus. Qu'un accord secret pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et alors, moi, je dis que quand un mec, sur une information, il n'en connaît pas plus que ça, il a qu'à fermer sa gueule. Et même à la rigueur, il serait pas venu, on n'était pas fâchés. Bon, et ça, je l'invente. Un des billets de la rançon du petit Jean-Luc a été retrouvé à Madrid. Les enquêteurs pensent que les gangsters sont passés en Espagne. Balèze. Ils sont balèzes, hein. Alors ça, j'y étais, c'est très gay. En football, Nantes-Nice, match nul 6-4. Ça veut dire que le match était sans intérêt. Comment t'as trouvé le match nul? Le tiercé, si vous avez joué le 8, le 12 et le 8, vous êtes trompé, vous avez joué deux fois le 8. Bon, alors, pendant ce temps-là, il y a les filous derrière qui nous fabriquent des centrales, des prisons, des canons pour nous becquer l'oxygène, et les autres avec leur tronche de premier de la classe, ils se pointent le soir à 8h, le temps restera nuageux sur la majeure partie de la France, mais merde. Et alors, c'est formidable, c'est qu'ils se croient honnêtes, ces cons-là. Ils se croient honnêtes, ils sont sûrs qu'ils disent l'information. Alors, ils voudraient qu'on soit intelligents et ils nous prennent pour des cons? Bah, comment on ferait, alors?
Coluche, et puis il y a la télévision. Nous étions en 1977. 43 ans après, rien n'a changé, ça s'empire. En deux mots ou pas, c'est vous qui voyez. Une seule solution, coupez la lucarne à blaireau et puis la radio pendant que vous y êtes. Sauf Radio B, bien évidemment. Il est l'heure de finir l'émission en beauté avec le fil rouge de l'émission, la reprise de Give Me Some Lovin'. Et nous restons dans les années 80. Après The Blues Brothers, place à un autre genre de rock, le métal. Je devrais plutôt dire hard rock ou glam rock, cher à Motley Crue, Rat et autres Quiet Riots. Nous restons donc aux États-Unis où, il faut bien le dire, 8 années du cowboy Ronald Reagan ont fait du mal à un pays qui n'avait pas besoin de son ultra-libéralisme pour augmenter les écarts entre les pauvres et les riches. 8 ans correspondant à la période dorée d'un genre musical qui avait porte ouverte sur les médias US à grands coups de clips et de femmes à moitié dénudées. Sex, drugs and rock'n'roll, telle était leur devise. Et celle d'un combo découvert du côté de Feu Radio TSF en 1986 avec Shot in the Dark, le deuxième album de Great White, créé en 1977 par Mark Kendall à la guitare, Jack Russell au chant, rejoint ensuite par Michael Lardy aux guitares et Audrey Desbrow à la batterie. À côté de compositions au format assez classique, hard rock teinté de blues, ils se font remarquer par de nombreuses reprises. Substitute des Who, Face the Day d'Angel City et Gimme Some Lovin' du Spencer Davis Group ou Once Bitten, Twice Shy de Ian Hunter, un succès grandissant jusqu'en 1989. Mais Nirvana est passé par là et le hard rock à la sauce US ne s'en est jamais vraiment remis. Great White existe toujours mais s'est séparé en deux. Après le départ de Jack Russell, le nom est resté et l'esprit également, celui que l'on retrouve sur Gimme Some Lovin' Great White. We'll be right back. Gimme Some Lovin' Great White. Nous étions en 1986. C'était le bon vieux temps du heavy metal, même sur RTL. 34 ans plus tard, il reste d'irréductibles hardos nostalgiques qui apprécieront toujours de réécouter un bon vieux Great White. Y a pas de mal à se faire du bien, et tant pis si on joue au vieux con. Il va être l'heure de se quitter. Tonio, bonsoir.
Salut.
La semaine prochaine, on ne change pas une émission qui gagne. Où s'arrêterons-nous ? Le plus tôt sera le mieux. En attendant, comptez sur nous pour égayer vos jeudis soirs. Sur ce, passez une excellente semaine sous les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.